Alors, prêtre, prophète et roi, c'est pour ça qu'on garde ça, mais qu'est-ce qu'on appelle être roi? Être roi, pour l'Ancien Testament, c'est permettre au peuple de vivre dans l'amour de son Dieu. Et une fois de plus, si l'Église a une fonction royale, elle doit la prendre dans l'exemple de Jésus-Christ. Et le grand texte que je n'ai pas mis là, mais vous le connaissez tous, et ce n'est pas la peine de le faire pour que, en parler, c'est le texte du lavement des pieds. Hein? Donc, à quel moment Jésus se montre roi? C'est là. C'est dans cette scène du lavement des pieds, qui, ne l'oublions pas, chez Saint Jean, remplace l'institution de l'Eucharistie, qui est juste avant le grand discours, qu'on appelle ça le grand discours aux disciples, puis on part à Gethsémani, l'arrestation, et il y aura le dialogue avec Pilate, tu l'as dit, je suis roi. Donc, c'est ce grand texte qui va nous dire qu'est-ce que c'est qu'être roi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Chez Jésus, la parole et l'acte vont toujours de pair. Ils sont toujours ensemble. Et pour le chrétien et l'Église, la fonction royale, c'est finalement être présence, prise en charge des hommes. Et puis, depuis quelque temps, on rajoute de la création. Alors, pourquoi être chrétien et agir dans le service? Il faut toujours se situer dans le signe de la promesse eschatologique. Vous vous rappelez le royaume, là. Celui, soit il est au-dessus de nous, soit il est au fond. On n'est pas en train de construire nous-mêmes le royaume. On est en train d'être des signes qui montrent au monde, qui montrent aux autres que le royaume est là, que la semence est présente. Et donc, il s'agit, quand on agit, pas forcément d'être, entre guillemets, efficace au sens des économistes, mais d'avoir des regards sur l'autre, sur les personnes qui sont des gens pour qui Jésus est mort, des regards, des une autorité, éventuellement, je dirais, pourquoi je dis autorité. En fait, il s'agit de faire grandir en liberté. Que je dis d'avoir l'autorité de Jésus, qui est une autorité qui autorise, qui permet la liberté. Il s'agit de libérer, de faire grandir, d'aller vers un avenir, de donner un sens. Et dans l'agir chrétien, dans le service chrétien, il y a deux aspects. Il y a un aspect critique et un aspect anticipation. Critique, c'est un agir qui va refuser ce qui est mal. Agir d'anticipation, ça va être un agir qui va mettre en place des signes, c'est-à-dire des petites choses qui sont signes d'une espérance plus grande, qui sont signes d'un amour plus grand. D'accord? Alors, peut-être que... je vais passer deux dias et après je reviendrai à la précédente. Concrètement, comment l'Église va le conjuguer? Il s'agira pour les chrétiens, pour l'Église, de prendre soin, vous vous rappelez, prendre soin. Avoir souci, c'est une des premières façons de traduire le munera, du monde, des hommes, de l'Église. Alors, service des pauvres, au sens large, dans l'Église, hors de l'Église. Dans les premières communautés chrétiennes, dans les Actes des Apôtres, ce qui fait signe à l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas de pauvres dans l'Église, parce que tous mettent en commun leurs biens. Vous voyez? Donc, ce n'est pas tant un égoïsme de dire on a nos pauvres que se dire que la pauvreté, on la prend en charge en tant qu'Église, en tant que chrétien, pour faire signe au monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne sert pas les pauvres hors de l'Église. Depuis quelque temps, mais extrêmement récemment, parce que c'est trop récent qu'on ait pris conscience que c'était important, la fonction royale comprend la préservation de la création. C'est très récent, mais c'est devenu, entre guillemets, quelque chose de consensuel dans les églises chrétiennes. Après, la façon de le faire est plus difficilement consensuelle. Tout ce qui est de l'ordre de la guérison, de la libération. Le christianisme aura été marqué par tout ce qui était hôpital, tout ce qui était soin. Et aura été extrêmement précurseur sur ce sujet. Au XVIe siècle, l'ordre de Malte avait à Malte le plus bel hôpital du monde, le plus moderne et le plus efficace dans ce qu'on appellerait maintenant un parcours de soins, etc. Et aujourd'hui, c'est plus à Malte, mais ils ont des hôpitaux en Afrique et dans des lieux difficiles. Ils en ont une quarantaine. Libération. Libération, entre autres, par l'accès à l'éducation. Le souci de l'éducation, les églises l'ont eu souvent. Alors, aspect royal aussi, que j'aurais appelé d'un mot qu'aime beaucoup notre pape, parce que c'est un mot de Saint-Ignace, c'est que notre pape est jésuite, c'est l'aide au discernement. Le discernement, c'est... Bon, la situation est complexe. Et il faut réfléchir à ce que nous devons faire. Alors, c'est une réflexion globale des groupes, des sociétés, etc. C'est une réflexion des individus. Et les églises, les chrétiens ont une responsabilité d'aide au discernement. Aussi bien sur le plan social que sur le plan des individus. Alors attention, aider au discernement, ça ne veut pas dire décider pour les autres. Ça veut dire poser les bonnes questions pour réfléchir de façon la plus saine possible. Donc, et puis il y a la question du gouvernement de l'Église que nous traiterons la semaine prochaine parce qu'on ne va pas traiter ça en 5 minutes. Et veiller à l'unité, permettre la diversité, faire grandir les personnes. Donc, simplement vous montrer que ce qu'on appelle les tâches royales sont les tâches de l'ordre du service, puisque je vous ai dit, l'image du roi, c'est Jésus-Christ au lavement des pieds, et qu'elles sont multiples, variées, et qu'elles dépendent beaucoup des époques, et des lieux, et des contextes. Comme j'ai dit qu'aujourd'hui, je parlais un peu du Concile, je vous ai mis les premiers mots d'une constitution qu'on appelle Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Et donc, qui cherche à savoir comment l'Église doit se positionner par rapport au monde. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Les joies et les espoirs. C'est le titre de la Constitution, Gaudium et Spes, les joies et les espoirs. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Donc là, c'est le début de cette constitution pastorale, c'est un programme d'action pour l'Église et pour les disciples du Seigneur au sens large. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. À tous, le Concile veut exposer comment il envisage la présence et l'action de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Le monde qu'il a ainsi en vue est celui des hommes, la famille humaine tout entière, avec l'univers au sein duquel elle vit. C'est le théâtre où se joue l'histoire du genre humain, le monde marqué par l'effort de l'homme, ses défaites et ses victoires. Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par l'amour du Créateur. Il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré pour qu'il soit transformé selon le dessein de Dieu et qu'il parvienne à son accomplissement. Donc, un programme pour l'Église dans le monde. Après, bon, Gaudium et Spes va décliner le programme. Comme le monde a tellement évolué depuis 50 ans, ça date des fois. Mais le fondement, c'est on n'est pas des chrétiens qui nous retirons parce que le monde est mauvais. C'est on est pleinement du monde, ce monde est sauvé et nous avons à en témoigner par nos paroles, par nos actes. Alors, en conclusion de tout ça, je vais maintenant revenir à la façon dont l'Église est structurée. Et pour aujourd'hui, la semaine prochaine, on verra la question des ministères qui prêtent au fait. Mais cette mission de l'Église, tous les baptisés en ont la charge. Tous ont été baptisés prêtres, prophètes et rois. Il y a différentes formes d'engagement au service du royaume. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Toutes les fonctions sont importantes. Il ne faut en oublier aucune. En plus, on ne peut pas dire que parce que vous servez la soupe au Secours catholique, vous n'allez pas prier. On ne peut pas dire que parce que vous êtes au CIF, vous ne faites pas attention à votre prochain. Chacun met ses propres doses des différentes fonctions qui s'entrecroisent pour faire quelque chose qui fasse sens pour lui et qui fasse sens pour l'Église. La prière, la parole de Dieu sont indispensables à tous. Après, le niveau d'implication de chacun n'est pas déterminé. N'oublions pas que et le niveau d'implication, en particulier dans la fonction royale, elle n'est pas forcément dans l'associatif ou l'ecclésial. Il y a des tas de façons d'exercer des professions, de vivre sa vie citoyenne, de prendre en des responsabilités politiques qui se font hors de l'ecclésial et qui participent de la fonction royale. La question quand même, c'est que si tous les baptisés sont appelés à être prêtres, prophètes et rois, si le monde a beaucoup de besoins, il y a toujours un risque concret qu'au sein de l'Église, au sein des besoins du monde, on passe à côté de quelque chose. Heureusement, l'Esprit Saint veille. C'est-à-dire que, à tout moment dans l'histoire de l'Église, les urgences changent. Enfin, les urgences, c'est toujours d'être à l'écoute des besoins du monde, d'accueillir la parole de Dieu, d'accueillir le don de Dieu. Mais leur forme concrète change. Et heureusement, l'Esprit Saint suscite beaucoup et souvent des nouvelles formes d'action au sein de l'Église qui permettent de répondre à de nouvelles formes de l'urgence. Et parmi ces formes, il y a la vie religieuse, don de Dieu, au service de la mission de l'Église. Parmi ces formes, attention, la vie religieuse n'est pas le tout de l'action de l'Église. Mais, une fois de plus, le problème de la vie religieuse, c'est qu'elle ne fait pas partie de la hiérarchie de l'Église. Alors, sur la feuille que vous avez dû avoir, prendre, vous avez le plan de Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique sur l'Église. Vous voyez ce plan. Tout d'abord, on a le mystère de l'Église. Ça veut dire qu'on va parler de l'Église un petit peu théologiquement, constituée par le Père, par le Fils, par l'Esprit, celle qui va être corps du Christ, celle qui va être peuple de Dieu. Puis, on va rentrer dans un certain nombre de détails, de chapitres. Le deuxième chapitre, attention, il vient après l'Église, qui est une donnée de foi. Ce deuxième chapitre, il va s'intéresser au peuple de Dieu dans son ensemble. Et les textes que je vous ai fait lire de Lumen Gentium aujourd'hui viennent de ce deuxième chapitre, entre 9 et 17, en ce sens que ce sont des textes qui nous concernent tous. Le peuple de Dieu, c'est tous les baptisés. Et quand dans ce texte sur le peuple de Dieu, on essaye de limiter, on va même jusqu'à dire, on l'a vu la semaine dernière, que les non-chrétiens sont ordonnés au peuple de Dieu d'une manière que Dieu seul connaît. Donc il n'y a pas une limite précise, c'est tous. Après ça, on va revenir à notre façon de penser l'Église avant le Concile de Trente, mais également au besoin de la comprendre, parce qu'on est quand même une forme de société. Et donc, il faut quand même on voit un petit peu comment on est organisé. Et on va avoir ce qu'on appelle la constitution hiérarchique de l'Église. Et c'est essentiellement l'épiscopat. L'épiscopat, les évêques. On voit ça la semaine prochaine. Après, on va venir aux laïcs. On va en reparler dans 5 minutes. Après, on va parler de tous les saints. Donc là, hiérarchie et spécialement l'épiscopat, ça va être le pape, les évêques, les prêtres et les guerres. Après, on va parler des laïcs. Après, on va parler du fait que tous sont appelés à la sainteté à l'endroit où ils sont. Et après, on va parler des religieux. Vous montrer que cela est juste avant le caractère eschatologique. Eschatologique, vous vous rappelez, c'est la marche vers le royaume. Vous voyez que ces religieux-là, ils sont entre tous qui vont vers la sainteté et ce royaume dont l'Église est le signe. Donc, ils ne sont pas là, ici, là où il y a les gens de l'Église. Hein, c'est important de s'en rendre compte. Et on termine sur la Vierge Marie, qui est comme un modèle pour l'Église. C'est assez original de terminer la constitution dogmatique sur l'Église par quand même 17 numéros sur la Vierge Marie. Vous voyez ? Donc, je reviens à mes religieux. Les religieux, là encore, on est dans une période de très grande créativité, d'invention de nouvelles formes de vie religieuse. Donc, ce que je vous présente là sont des formes un petit peu plus traditionnelles, alors qu'il y a un foisonnement d'inventions et qu'il nous faudra 2 siècles pour savoir ce qui va s'arrêter parce que c'était du feu de paille et ce qui fait sens pour l'Église et qui va perdurer. Mais dans la vie religieuse traditionnelle, elle est marquée par ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Alors, la phrase en grâce, c'est toujours mon Lumen Gentium, là. Vous voyez, quand j'ai parlé des religieux, au numéro 43, eh bien, on va définir les religieux. Et on les définit par ce qu'on appelle les conseils évangéliques de chasteté vouée à Dieu, de pauvreté et d'obéissance. Donc, 3 conseils, chasteté, pauvreté, obéissance. Et ils constituent un don divin que l'Église a reçu de son Seigneur et que par sa grâce, elle conserve toujours. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil du don, c'est la vie religieuse. C'est compliqué, la vie religieuse. Donc, caractérisée par les conseils évangéliques. En général, marquée par des vœux, même si dans le foisonnement actuel, c'est des fois un peu plus compliqué que ça, et pas seulement actuel, ce qu'on appelle la profession religieuse. Mais cette profession religieuse, elle ne fait pas partie des sacrements, des 7 sacrements. Pourquoi ? Il y a 7 sacrements. Vous verrez ça avec Frère Isaïe. Mais il n'y a pas la profession religieuse. Donc, elle ne fait pas partie des 7 sacrements. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est un héritage de l'histoire ou si c'est l'Esprit Saint qui en a voulu ainsi. C'est toujours difficile de discerner, mais c'est le cas. C'est ce qu'on appelle un état de vie, la vie religieuse. Et cette vie religieuse est indépendante de ce qu'on appelle la structure ministérielle ou hiérarchique de l'Église. Hein ? Donc la constitution hiérarchique, l'épiscopat. La vie religieuse, c'est à côté. D'ailleurs, vous voyez, elle est là. Alors que les laïcs, ils sont là. Bon. Donc, indépendante. Après, les religieux, vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont religieux. Alors que les clercs, les prêtres, les diacres, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a que des hommes. Donc la question qui se pose pour moi, c'est est-ce que les religieux sont prêtres ? Alors, ça dépend lesquels. Il y a des religieux prêtres et des religieux non prêtres. Quant aux prêtres, ceux qui sont des prêtres diocésains, c'est-à-dire l'immense majorité des curés, ne sont pas des religieux. Ils sont ce qu'on appelle le clergé séculier, parce qu'ils n'obéissent pas à une règle. Parce que les religieux, ils sont caractérisés par une règle, en général. Alors, après, il y a une question très controversée, vous allez le voir, c'est de savoir, est-ce que les religieux et les religieuses sont des laïcs ou pas? Ceux qui ne sont pas prêtres, bien sûr. Ceux qui sont prêtres, c'est clair, ils sont clercs, donc ils ne sont pas laïcs. Mais les religieux qui ne sont pas prêtres, et donc en particulier toutes les religieuses, qui sont très 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 nombreuses dans l'Église, sont-elles ou non laïques? Alors là, le magistère lui-même ne le sait pas. Donc, ça doit faire partie des choses que l'Esprit Saint ne sait pas. Sur votre feuille, que je vous ai distribué. Vous avez...
Alors, est-ce que je peux en avoir un exemplaire? Il y en a d'autres pour vous?
C'est le mien.
Bon. Vous avez... le premier, ça va parce que je... non, je ne l'ai pas. Vous avez deux extraits. Voilà, c'est bon. Merci. Vous avez Lumen Gentium au numéro 31. Alors, vous voyez sur la feuille, après le plan de Lumen Gentium, je vous ai mis d'assez gros extraits que vous lirez ou pas, mais qui peuvent être intéressants. Et au début du numéro 31, c'est la traduction officielle du Vatican, hein, ce que je vous donne. Il est écrit « Qui est visé par le terme laïque ?» Le numéro 31, c'est au début du paragraphe sur les laïcs. Il y a écrit « Sous le nom de laïque, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnu dans l'Église. Donc là, on dit « sont laïcs », ceux qui ne sont pas clercs. L'ordre sacré, c'est les prêtres, les diacres et les évêques et le pape à l'occasion. Et en dehors des religieux. Donc là, ben, si les laïcs ne sont pas religieux, ça veut dire que les religieux ne sont pas laïcs. Après ça, de l'autre côté de la page, vous avez le code de droit canonique. C'est ici. Codex Iurex Canonicus, comme ça. Ou plutôt Canonicus Iurex Codex. Bon. Au canon numéro 207, et qu'est-ce qu'on écrit ? Par institution divine. Vous voyez comment parle le code de droit canonique. Il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs. Il existe des fidèles appartenant à l'une ou l'autre catégorie, qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques, au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés et reconnus par l'Église. Donc, là, qu'est-ce qu'on dit ? Les religieux non clercs sont laïcs. Donc vous avez Lumen Gentium qui nous dit que les religieux religieuses ne sont pas laïcs, et vous avez le code de droit canonique qui nous dit qu'ils sont laïcs. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet de dire, comme finalement le disait ce plan, qu'ils sont quelque part signe d'autre chose. Et ils sont signes de quoi ? Ils sont signes du royaume. La vie religieuse, c'est un signe eschatologique, un signe de la présence du royaume sur la terre. Et c'est pour ça que finalement, dans les affaires de hiérarchie, d'institutions, de codes, etc., on ne sait pas trop où les mettre. Puisque il nous parle du royaume et non pas de la constitution terrestre d'un groupe appelé Église. Alors ça, vous l'avez dans le numéro 44 qui est à la deuxième page. Donc le numéro 44 au début du troisième paragraphe du numéro 44. La profession des conseils évangéliques apparaît en conséquence comme un signe qui peut et doit exercer une influence efficace sur tous les membres de l'Église dans l'accomplissement courageux des devoirs de leur vocation chrétienne. En effet, le peuple de Dieu n'a pas ici-bas de cité permanente. Il est en quête de la cité future. Or, l'état religieux qui assure aux siens une liberté plus grande à l'égard des charges terrestres, manifeste aussi davantage aux yeux de tous les croyants les biens célestes déjà présents en ce temps, Il atteste l'existence d'une vie nouvelle et éternelle acquise par la rédemption du Christ, et il annonce enfin la résurrection à venir et la gloire du royaume des cieux. Donc vous voyez cet état religieux, pourquoi il est là et il n'est pas là, et il est à la fois parmi les laïcs, les fidèles communs, et à la fois ce n'est pas des laïcs, ils sont quelque part un signe du royaume. Alors, toujours dans l'Humaine Gentium 43, là j'ai mis un petit bout de texte, des formes variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses, dont le capital spirituel profite à la fois aux membres de ces familles et au bien de tout le corps du Christ. Il y a une plaisanterie dans l'Église qui dit que le nombre de congrégations religieuses dans l'Église est quelque chose que l'Esprit Saint lui-même ne connaît pas. Donc, c'est vous dire qu'il y en a, alors il y en a des grandes, bien connues, et puis il y a beaucoup de petites. Deuxième chose, même si aujourd'hui, on est en plein foisonnement, pleine créativité, et que ceci est peut-être en train de changer, la vie religieuse se caractérise par des règles, et des groupements volontaires de personnes, donc quelque part on est entre guillemets dans la forme secte au sein de l'Église, mais l'Église, la grande Église, régule cette secte, en particulier elle régule que les règles soient conformes à la pensée de l'Église et au droit canon, et ces groupements sont en principe des groupements d'hommes ou de femmes, même si beaucoup de grands ordres ont une branche masculine, une ou des branches masculines et une ou des branches féminines. Ensuite, dans le temps de l'Église, il y a eu apparition de petit à petit d'ordres de type différents et de congrégations. Les premiers arrivés sont les ordres monastiques. Et après, je rajoute les instituts voués à la contemplation. Donc, en Occident, surtout les bénédictins, les cisterciens. Par leur vie et par leur mission, les personnes qui en font partie imitent le Christ en prière sur la montagne. Elles témoignent de la seigneurie de Dieu sur l'histoire. Elles anticipent la gloire future. Quelque part, elles sont surtout dans la fonction sacerdotale, dans la fonction de prêtre. Vous voyez ? Surtout. Hein ? Parce que ça ne veut pas dire qu'elles sont engluées, enfermées dedans. Ces ordres-là apparaissent très tôt dans l'histoire de l'Église. Ils existent aussi bien en Orient qu'en Occident. La forme monastique est la forme où les personnes font vœu dans un monastère et en principe vont y finir leur vie, sauf à faire partie du petit groupe qui va créer un autre monastère. Alors vous avez les Carmels, vous avez j'ai mis bénédictin, cistercien, vous en avez beaucoup, le chartreux aussi, mais c'est large. D'une façon générale, sans que je puisse me prononcer sur le pourquoi, il y a plus d'ordres féminins que masculins, et les ordres féminins sont de taille plus petite, de façon générale. Mais ça ne veut pas dire que ce soit absolu, il y a des congrégations masculines très petites, et il y a des congrégations féminines importantes. Bon, ça apparaît assez tôt dans l'histoire de l'Église. En gros, quand la persécution se termine, on va parler d'une nouvelle forme de martyr, c'est-à-dire d'une nouvelle forme de témoignage dans le fait d'être dans l'absolu du don de soi à Dieu. Et c'est là qu'on va inventer ces trois vœux, ce vœu de pauvreté, c'est-à-dire on n'a rien de terrestre, ce vœu de chasteté, c'est-à-dire nous n'allons pas nous marier, nous n'allons pas nous reproduire, parce que Dieu seul est grand, parce que Dieu seul mérite qu'on s'occupe de lui. Et ce vœu d'obéissance qui est en remettant à son supérieur les choix de sa vie quotidienne, les décisions, on s'en remet à Dieu. C'est effectivement, pour nous autres occidentaux modernes, c'est certainement le plus difficile à comprendre. Apparaissent plus tard ce qu'on va appeler les ordres mendiants. Surtout les grands ordres dominicains, franciscains. Alors, dans les siècles précédents de l'Église, il était apparu je ne sais combien d'ordres monastiques, au point qu'un pape avait décidé que ça suffisait et qu'il n'aurait plus de nouveaux ordres dans l'Église. C'est ce brave pape qui a accueilli Saint-Dominique et Saint-François, les deux, rien que ça. Parce qu'on est dans une nouvelle forme d'un nouveau besoin de l'Église et du monde, une nouvelle forme de vie religieuse. On vit dans un couvent, c'est-à-dire dans une maison où on vit entre religieux, en communauté, mais dans une ville, et non pas un monastère à la campagne. Le monastère, c'est vraiment une forme de l'époque rurale. Ça apparaît au tournant du Moyen-Âge, quand l'Occident se réurbanise, et on sort de son couvent, on accueille dans son couvent pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner par la pauvreté et la mendicité. Donc, vous voyez, les dominicains avec frères prêcheurs qui témoignent et qui donc vont devenir des grands théologiens, parce que pour témoigner, il faut beaucoup réfléchir à la parole, mais il n'y a pas qu'eux hein, comme grands théologiens, les franciscains, Bonaventure et les franciscains. Et les frères mineurs, les franciscains, qui vont témoigner de la nécessité absolue d'une église pauvre pour les pauvres. Il y en a d'autres. Là, sans que ce soit leur seule mission, on a une vie religieuse qui est prophétique, sans que ce soit leur seule mission. Les dominicains, les franciscains disent les offices en commun. Donc ils ont une vie sacerdotale, une vie de prière. Vous verrez apparaître après toutes les congrégations qu'on appelle apostoliques, et ça va être toutes ces congrégations missionnaires qui vont faire l'école, qui vont s'occuper d'hôpitaux, qui vont créer et qui vont avoir une imagination dans les œuvres, les missions, et ce qu'on appelle les œuvres de charité, extrêmement débordante. Et là, vous allez être, les frères des écoles chrétiennes, ils vont s'occuper de scolariser les enfants pauvres. Vous aurez l'ordre de Malte, dont j'ai déjà parlé, qui a créé des hôpitaux. En plus, c'était des moines soldats, etc. Donc, vous avez un foisonnement de vie religieuse qui correspond aux besoins de l'Église et qui apparaissent à chaque moment en fonction des besoins. La congrégation des Assomptionnistes, Bayard Press, ils naissent vers 1850 à peu près, au milieu du 19e, et ils inventent l'apostolat de la presse. C'est un nouveau service à rendre au monde. On ne sait pas si c'est une fonction royale, si c'est une fonction prophétique, on n'en sait rien. Mais ils ont cette espèce d'intuition que la presse est un lieu d'évangélisation. Alors actuellement, beaucoup de grands ordres s'occupent d'Internet. À ma connaissance, il n'y a pas de congrégation en train de se créer pour ça. Mais les jésuites s'en occupent, les dominicains s'en occupent, les assomptionnistes s'en occupent. Ils ont compris que là, il y avait un lieu d'évangélisation. Voilà.
Et le CIF s'y est mis.
Ben, il faut bien. Voilà. On ne fait pas que ça. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire sur la vie religieuse, alors, ici, je vous ai lu un petit passage sur la vie monastique. Là-dessous, sur les autres ordres, c'est un témoignage magnifiquement varié qui reflète la multiplicité des dons communiqués par Dieu aux fondateurs et aux fondatrices. Ceux-ci, ouverts à l'action de l'Esprit Saint, ont su interpréter les signes des temps et répondre de manière éclairée aux exigences qui apparaissent progressivement. Ces deux petits passages sont extraits de l'exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II, Vita Consecrata, sur la vie consacrée, qui date de 1996. Il est toujours très difficile de lire des documents officiels sur la vie religieuse dans l'Église, tant cette vie religieuse est diverse et variée. Parce qu'il y a en plus plein de choses autres que c'est pour ça que Jean-Paul II prend le terme de vie consacrée, qui permet une vie consacrée en dehors des ordres religieux et des professions de foi religieuses. C'est encore plus compliqué que ça. On n'a pas eu le temps de tout voir et on ne pourra pas tout voir parce que l'Esprit va tellement vite et crée tellement de choses que c'est difficile de s'y retrouver. Mais ça, c'est bien pour que l'Esprit Saint soit au travail dans l'Église. Alors j'en viens à cette conclusion. Donc là j'ai mis les trois verbes. Mais finalement, à la suite du Christ, prêtre, prophète et roi, la mission de l'Église, ça va être de célébrer, louer, adorer, de témoigner ou d'annoncer, et de servir. Et ça fait beaucoup de choses. Elle fait ça pour être signe du royaume, pas pour bâtir le royaume de ses petites mains. C'est Dieu qui bâtit le royaume, c'est Dieu qui le fait. Mais elle est au service du royaume. Elle doit... L'autre jour, au début, j'ai commencé par dire qu'on était sur un fil de crête entre esprit de conquête et discrétion des missions. Ici, j'ai d'autres tentations qu'il faut, à laquelle il faut dont il faut se méfier. Celle de tout tenir, de s'accaparer la mission du Christ, de penser, comme on a pu le dire à certains moments de l'Église, que l'Église, c'était le Christ continué. Non, le Christ, c'est le Christ. L'Église reçoit une part de la mission du Christ. Elle a en charge de la rendre présente aux yeux de ses contemporains et de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint pour trouver les différentes façons d'être présente. Ensuite, on a toujours la tentation de se dire qu'une des fonctions est plus importante que l'autre, que les autres. Et je pense que pour nous, à une époque moderne, peut-être moins en 2018 qu'en 1980, mais j'en sais rien, on a souvent tendance à penser que le service est le plus important. Je ne suis pas sûre. Il faut trouver l'équilibre et surtout trouver pour chaque baptisé le sien d'équilibre entre les trois. Parce que il y a des gens qui ont un tempérament actif et pour qui le service sera une forme de prière. Et il y a des gens qui ont un tempérament ouvert sur le monde, on ne va pas les enfermer dans un monastère. À l'inverse, il y en a d'autres qui ont un tempérament intellectuel, qui auront besoin de travailler, à écouter, à comprendre la parole. Et chacun doit être signe en fonction de des dons reçus. L'Église signe, on va parler des fois, je vous en parlerai dans votre dernier texte en travail de groupe, de présence sacramentelle de l'Église dans le monde, de l'Église sacrement pour le monde. Si on a le temps, on passera un peu plus de temps là-dessus. Mais vraiment, le texte que vous avez en travaux de groupe est remarquable sur ce sujet. Mais pour que l'Église soit sacrement pour le monde, pour qu'elle fasse signe, comment il faut s'y prendre? Là, vous avez une tension qui traverse les églises, toutes les églises. Est-ce que l'Église, qui est peuple de Dieu dans l'histoire, qui doit être un signe du grand rassemblement eschatologique, du royaume des cieux, elle doit privilégier des formes de visibilité, des formes où on voit ce qu'elle fait. Ou est-ce qu'au contraire, l'Église, qui est l'Église dès que deux ou trois seront rassemblés en mon nom, elle doit privilégier une présence discrète et concrète au sein du monde pour le féconder de l'intérieur, l'idée du levain dans la pâte. On ne sait pas. Là aussi, on est sur une ligne de crête. Je dirais que quand nos évêques, Rome, le Vatican, opèrent, mettent en œuvre, enfin font en sorte que se réalisent les JMJ, ils ont cette vision de l'Église, des grands rassemblements. Et ces grands rassemblements nourrissent les jeunes, mais nourrissent également les gens qui les voient. L'Église fait signe que l'Église soit capable de rassembler de l'ordre d'un million de gamins entre 18 et, 20 et 30 ans, c'est quand même un signe d'une Église qui vit. Au contraire, il y en aura d'autres qui diront, bon, ben, on se fait discret, on fait notre boulot, on dessine discrètement au sein de nos lieux de vie, de nos villages, de nos boulots, de nos entreprises, etc. Il n'y a pas de réponse absolue à cette question. L'important, c'est qu'il signe. Là, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est que c'est bien beau de dire que tout le monde est responsable, que c'est bien beau de dire que l'Église doit être variée, doit être polyphonie. Comment on fait pour rester unis, pour avoir des lieux de régulation, de la doctrine, des façons de faire, pour ne pas embrigader les gens, pour... Alors, c'est là que l'Église s'est donné des institutions et des ministères, et qu'il nous faudra bien 2 heures pour en parler la semaine prochaine. Voilà, pour aujourd'hui.
Les trois vertus, là, pour être religieux, elles s'est apparu quand sur la définition des...
Chasteté, pauvreté, obéissance, oui. Ça existe avant... Il y a déjà des moines dans le judaïsme type essénien, etc., avant Jésus-Christ, ouais. Et les moines bouddhistes sont les mêmes. Ouais. Donc c'est une forme, c'est une forme anthropologique, pas spécifiquement chrétienne, et très ancienne dans l'humanité. Même si, après, bien sûr, c'est conjugué au sein du christianisme. Donc ça, c'est très vieux, et pas uniquement chrétien.
Ça n'a pas été, parce qu'on disait qu'avant les prêtres étaient mariés.
Ah ben, il faut revenir au fait que les prêtres séculiers ne sont pas des religieux.
Ah oui.
Donc, je le redirai, les prêtres séculiers non religieux, le mariage, le non-mariage est une affaire récente, et au sein de l'Église catholique romaine, certaines églises orientales ont encore un clergé marié. Toujours très surprenant de rencontrer un prêtre qui a la photo de son épouse en fond d'écran de son téléphone.
D'accord.
Voilà. Mais, voilà. Mais ça existe au sein de l'Église catholique romaine. Donc, évidemment, là, on est dans du clergé séculier. Là, en l'occurrence, la personne dont je vous parle, c'est un maronite du Liban, ouais. Mais ils ont également des prêtres religieux qui, eux, vivent en vœu de chasteté.
Est-ce qu'il n'y a pas les jésuites, par exemple, ne sont-ils pas tous prêtres?
Alors, ils sont presque tous prêtres, ouais. Mais pas tous.
Ah bon. Il n'y a pas de frères jésuites.
Il y en a eu. Je ne saurais vous dire, j'en ai connu, mais je ne sais pas s'il y en a de vivants actuellement dans la province de France. En revanche, j'en connais au moins un qui est diacre, qui n'est pas prêtre.
Oui. Et qui est jésuite.
Et qui est jésuite. Alors, pendant très longtemps, l'idée était que les jésuites étaient une congrégation de prêtres. Et ceux qui n'étaient pas prêtres étaient en fait des jésuites qui étaient rentrés, qui étaient des bons jésuites dans leurs vœux d'obéissance, de chasteté, de service, de prière, mais qui n'avaient pas été capables de faire leurs études, parce qu'il ne faut pas oublier que pour être prêtre, il faut un niveau licence. Hein. Et un niveau licence, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Beaucoup de congrégations religieuses masculines où l'idée était qu'ils soient prêtres, les religieux, enfin, il existe, au moins chez les jésuites, c'était en général des gens qui n'avaient pas été capables d'aller au bout de leurs études. Maintenant, il y a aussi toute une réflexion qu'on abordera la semaine prochaine un peu plus sur le statut du prêtre qui font qu'ils réinterrogent le fait d'avoir en leur sein des non-prêtres.
Ah oui,
voilà.
Des compromis,
certaines congrégations. Et par exemple chez les franciscains ou les bénédictins, on voit très bien dans des hommes et des dieux qu'ils ne sont pas tous prêtres.
Ah oui.
On le voit très clairement quand on voit le film. Voilà.
Merci beaucoup. Merci.